Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Foot International en ce mercredi 21 octobre, deuxième jour de Ligue des Champions sur les terrains européens. Nous évoquerons d'ailleurs le grand retour de l'OM en Ligue des Champions et qui dit tout haut viser les huitièmes de finale. Les Marseillais débuteront en Grèce, au Pirée contre l'Olympiakos, un habitué de la compétition qui compte dans ses rangs l'ancien Marseillais Mathieu Valbuena. L'OM compte par contre sur ses cadres Thauvin, Payet et Mandanda pour réussir à s'imposer. Bayern Atlético, l'affiche de cette soirée européenne. Les Madrilènes retrouvent des champions en titre, mais les Bavarois doivent-ils trembler face aux Colchoneros? Le Real Madrid, lui, sera face au Shakhtar Donetsk et le défi de se retrouver sur sa pelouse malgré les absences de Ramos est toujours celle de Hazard. L'Ajax Amsterdam reçoit Liverpool, mais cette équipe joueuse des Pays-Bas peut-elle encore jouer les troubles faites? Le PSG battu d'entrée, comment comprendre cette défaite d'une équipe qui compte tant de grands et de bons joueurs? Bonjour Dominique Sévrac.
Bonjour Annie.
Vous avez la réponse, j'espère, parce que c'est la question
qu'on vous pose. Il y a Olympiakos le Pirée et Paris Saint-Germain le pire, peut-être.
Oh, c'est pas mal, vous allez être supporter de Marseille ce soir.
J'aime les clubs français.
Bonjour Salim Bongali.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être là, notre camarade RMC Sport qui anime les soirées, lui, de télévisé sur la Ligue des Champions. Et puis la ville d'Ortolari, lui, il les commente les matchs. Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Toujours avec votre tropisme allemand, bien sûr.
Bah oui, c'était Leipzig hier soir.
Hein, n'est-ce pas? David Finzelmeide a préparé l'émission, Laurent Salerno est à la réalisation. Allez, on y va.
Est-ce que t'as dansé sur ça, Annie?
Athènes. D'un port de la Méditerranée. Ah, ça donne envie, on s'y voit là.
Maestro Salerno, c'est énorme.
Dans les rues d'Athènes, dans le quartier de la Plaka, pas loin de, en plus d'un Parthénon qui en ce moment est un peu déserté par les touristes et sans doute plus agréable à visiter. Donc, d'un port de la Méditerranée, l'autre, Marseille et le Pirée, sont deux grandes cités portuaires du sud de l'Europe et ces deux ports datent d'à peu près la même époque, du temps des puissances marchandes de la Méditerranée. Marseille, alors fossé, créé en 600 avant Jésus-Christ, et le Pirée, fortifié un siècle plus tard par les Athéniens. Tout ça donc bien avant Jésus-Christ, un autre millénaire. Deux ports qui en plus sont deux clubs de football très populaires, plein de similitudes, et qui s'appellent l'Olympique, qui joue en bleu et blanc, et l'Olympiakos, qui joue en rouge et blanc. Pour Marseille, qui jouera en Grèce, l'heure est importante. L'équipe phocéenne attendait ce moment depuis 7 ans. 7 saisons à regarder la Ligue des Champions à la télévision. Hein, ça peut arriver, Dominique, n'est-ce pas?
Oui.
Pourtant, faut-il le rappeler, l'OM est la seule équipe française à avoir remporté
jamais
la Coupe aux Grandes Oreilles. Exactement, c'était en 1993. Il y a une éternité, Dominique, où se mêlent peut-être passé et passif.
Oui, déjà c'était le passé, c'est l'avant Bosman, l'avant Harry Bosman, dans un moment où le football il y avait très peu de puissance et la France en faisait partie. Jean-Pierre Papin était Ballon d'Or en 91, voilà, il jouait il jouait plus à l'Olympique de Marseille, mais il avait joué à l'Olympique de Marseille 13 ans. Et le passif, bah, c'est toutes les années de tapis peut-être que vous voulez évoquer, où il y avait une suspicion. Il y a désormais, maintenant qu'on a un peu de recul, une suspicion permanente sur tous les matchs, et y compris sur les matchs européens. Les langues se sont déliées en France, et peut-être qu'un jour elles se délieront en Europe. Voilà, on ne sait pas exactement si tous les matchs ont été gagnés vraiment sur le tapis vert.
Ouais. Passif aussi, peut-être Salim, on peut dire toutes ces années de creux ces derniers temps. 7 ans d'absence de la Ligue des Champions. La dernière comparution en Ligue des Champions, c'était pas terrible. Hein, si je me trompe pas, c'était 0 points.
Ah oui, c'était le fameux à jamais les premiers, avec un club français.
À jamais les derniers, pour le coup. Là.
Oui, c'est ça. Première fois qu'un club français n'avait pas pris un seul point en phase de poule de Ligue des Champions. Donc c'est vrai que ça a compté. Ça a été beaucoup l'objet de railleries, notamment. On évoque souvent la concurrence entre PSG et Marseille. Les supporters parisiens se sont fait plaisir durant cette période. En plus, les Parisiens, eux, jouaient la Ligue des Champions durant cette période, là où les Marseillais n'y arrivaient pas, en leur rappelant toujours que c'est 0 points, on vous le rappelle lors de la dernière édition. Après, quand même, durant cette période, il y a eu l'Europa League. qui a permis aux Marseillais de rêver un peu avec, il y a deux ans, la finale de l'Europa League.
Oui, en 2018, en juin 2018.
Avec Rudy Garcia et Dimitri Payet, déjà.
C'est ça.
David,
les meilleurs amis du monde.
Olari, justement, renouer avec un passé glorieux, ça veut dire aussi peut-être être prudent, être modeste.
Oui, mais les conditions semblent plutôt favorables sur le plan sportif avec un adversaire, allez, on va dire accessible pour un premier match. Il y a un favori de groupe qui est identifié, qui serait Manchester City. Et puis à côté de ça, Marseille peut, cet Olympique de Marseille là qu'on a vu ces tout derniers temps, récemment, peut se mêler à une lutte d'égal à égal avec un FC Porto, peut-être, avec un Olympiakos, peut-être, dans des circonstances si particulières. Les Grecs ce soir seront dans leur stade, mais il n'y aura pas ce public. Donc il y a ces éléments-là sur le plan sportif qui sont favorables à l'OM. Je m'attacherais plutôt à cela, moi, pour un match comme celui de ce soir, plutôt que on était une grande puissance à une époque.
Bien sûr.
Dans la tête des joueurs, au coup d'envoi, ça va être plutôt de donner le maximum avec les armes qu'ils ont aujourd'hui.
D'égal à égal, je sais pas. Hein,
je pose la question.
Parce que quand même, en termes de, dans les deux surfaces décisives, donc la surface de réparation et la surface adverse, bon, ils ont le mandat, ça va, mais les taux, c'est pas.
On va y venir à la prouesse sportive. Pour l'instant, surtout à l'égard de nos auditeurs et des plus jeunes, eh bien, on voulait quand même rappeler ce passé glorieux de l'OM en Ligue des Champions. Justement, cet OM, eh bien, il se trouve à Athènes, où nous retrouvons notre envoyé spécial de la rédaction d'RFI, Eric Mamrud. Bonjour, Eric.
Kalispera, Annie. Mm-hmm. Bonsoir, messieurs.
Et oui, Kalispera, dit-on là-bas.
Toutes les langues, hein.
Avant Eric Guéret. C'est pas Eric Guéret.
Avant
Eric Mamrud.
Alors, Eric Mamrud, l'Olympique de Marseille va jouer l'Olympiakos du Pirée, un club qui a une grande expérience en Ligue des Champions, même si eux n'ont pas une étoile sur le maillot, et surtout peut-être aussi cette équipe, David Lortolari faisait allusion, qui va être déjà amputée de son 12e homme dans une enceinte qui s'appelle Karaiskakis,
même moi je rajouterais un petit S, c'est à la mode en Grèce de mettre des S un peu partout à la fin.
D'accord.
Effectivement, un chaudron habituellement, 33 000 personnes, quand les places sont occupées, évidemment ça fait beaucoup de bruit, hein, on connaît la ferveur des supporters grecs. Alors, il y a eu un petit espoir hier, le gouvernement pendant un temps avait dit vous allez pouvoir jouer ce match avec 3500 personnes, et puis le gouvernement s'est vite rétracté, il n'y aura personne ce soir. Malheureusement, effectivement, il n'y aura pas le chaudron, même si c'est pas un chaudron dans lequel se sont brûlées les équipes françaises par le passé, hein. Dans l'ensemble, ça se passe plus ou moins bien, hein. Si on regarde les confrontations directes entre l'Olympiakos et les clubs tricolores qui sont venus ici, il y a eu 14 affrontements, et à l'arrivée, c'est égalité, 6 victoires grecques, 6 victoires françaises, 2 matchs nuls. Donc ça va a priori, donc là il y aura pas le public, donc peut-être effectivement un avantage face à une équipe de l'Olympiakos, vous l'avez dit Annie, qui a l'expérience de la Ligue des Champions, je dirais, qui est plus une habituée qu'un cador, évidemment, de la Ligue des Champions, c'est sa 20e participation. L'Olympique de Marseille n'en a que 10, mais à côté, l'OM a un trophée. Bon, même si, peut-être, je sais pas s'il a été acheté, Dominique, mais en tout cas, il est dans la vitrine.
Il y avait moins de matchs qu'aujourd'hui, on va dire.
Mais, c'est vrai que les Grecs ont participé à 8 des 10 dernières campagnes. Pour l'OM, ça va être un retour. Et si on regarde la dernière expérience, le dernier match européen de l'OM, si vous vous rappelez, messieurs, dames, c'était le 13 décembre 2018 au Vélodrome, une défaite peu glorieuse contre l'Apollon Limassol, 3-1, club chypriote. Donc, on va voir si depuis, ça fait pas si longtemps que ça, hein, ça fait à peine 2 ans, si depuis, l'OM a un autre visage.
Oui, c'était de la Ligue Europa, en l'occurrence.
Voilà, Ligue Europa.
Il y a déjà eu des rencontres entre l'OM et l'Olympiakos, hein. Il y en a eu 4, si je me trompe pas, et 3, où l'OM est sorti victorieux. Donc, bon. Mais autre temps, autre moment. Dans l'effectif de cet Olympiakos, Eric Mamrud, d'abord, il y a un entraîneur portugais, hein, c'est comme à l'OM, Pedro Martins. Et il y a une vieille connaissance des Marseillais, un certain Mathieu Valbuena, qui a passé 8 saisons à l'OM. Et ben, vous le connaissez, Mandanda aussi.
Mathieu, je pense que tout le monde le connaît. Moi, je le connais très bien pour avoir joué pas mal d'années avec lui. C'est un joueur qui est extraordinaire, qui a beaucoup de qualités, très adroit devant le but. Donc c'est sûr qu'en étant gardien et en le connaissant, ben, on est encore plus vigilant. Mais c'est pas le seul sur le terrain. Il y en a d'autres aussi qui sont en forme et qui sont bien de l'autre côté. Donc à nous et à moi aussi d'être concentrés et performants tout simplement pour l'équipe.
Un club de Marseille auquel, évidemment, Mathieu Valbuena se dit lié à vie, mais ce soir, il joue en face et ça a toute son importance, Eric, parce qu'il sort d'une bonne saison avec l'Olympiakos.
Et effectivement, il s'est imposé ici en Grèce. Hein. Il est arrivé la saison dernière après avoir porté le maillot de Fenerbahçe pendant deux saisons et bah, la mayonnaise a pris rapidement. Bon, je sais pas si les Grecs sont amateurs de mayonnaise, mais en tout cas, il a effectué 23 passes décisives et inscrit 10 buts. Et bah, il est capitaine de l'équipe, tout simplement, de l'Olympiakos Le Pirée, mais ça va quand même lui faire bizarre ce soir d'affronter donc l'Olympique de Marseille, un club, son club de cœur. Hein, il aura disputé 331 matchs au cours de sa carrière avec l'équipe phocéenne entre 2006 et 2014. Il a inscrit 38 buts, il a été champion de France à une reprise, il a gagné 3 coupes de la Ligue. Bah, c'est le club de sa vie, ça s'est mal terminé, la séparation a été douloureuse et son retour en 2015 alors qu'il portait le maillot de Lyon, si vous vous rappelez, en septembre
bien, oui.
2015 avec le fameux pendu, c'était pas très glorieux, un mauvais souvenir pour lui, mais ce soir, et surtout lors du retour évidemment à Marseille, ça sera le 1er décembre prochain, ça va être forcément très très particulier pour lui.
Oui, alors le fait qu'il n'y ait pas de public aura sûrement son rôle, mais c'est sûr que par exemple on a vu Coman marquer contre le Paris Saint-Germain, par moments c'est vrai que ces confrontations où d'anciens retrouvent leurs camarades, c'est pas simple. Salim, vous vouliez peut-être parler d'un autre joueur de cet effectif,
oui,
autre que Valbuena.
L'Olympiakos forcément on se focalise sur Valbuena par rapport à sa relation avec l'OM, mais El Arabi qui est ô combien précieux depuis qu'il est dans cette équipe, l'ancien Canet, encore auteur d'un triplé ce week-end face à Atromitos, et c'est vraiment un danger permanent. La saison dernière, l'Olympiakos avait fait quand même 8e de finale d'Europa League en éliminant notamment Arsenal, ce qui n'était pas rien, avec notamment El Arabi buteur. L'Olympiakos de l'année dernière qui, en Ligue des Champions, avait été ensuite reversé en Europa League, on a eu une bonne équipe en Europa League qui a eu des difficultés en Champions. C'est aussi ça le gap que doit réussir à affronter et à passer l'Olympiakos. C'est enfin réussir à se qualifier pour un 8e. Et c'est là où ils ont beaucoup de mal aujourd'hui.
Oui, effectivement. Dominique ?
Non, moi je pense quand même que Marseille reste au-dessus. Je pense que c'est une super entrée en matière de jouer à l'extérieur, sans pression, sans l'adversité du public. Donc dans un contexte dépassionné, c'est quand même, ils n'ont pas à faire le jeu. Voilà, ils peuvent ramener un nul, ça sera un bon résultat. Ils peuvent même avoir mieux. Donc je pense quand même que c'est une entrée idéale.
Il y a un jeune joueur aussi, Eric Mamrut, que vous avez rencontré hier du côté du Pirée, un jeune Sénégalais qui fera ses premiers pas, c'est le défenseur de 24 ans, Ousseyn Niba, et il vous a parlé de quoi quand vous lui avez posé la question sur le match, il vous a parlé de l'OM.
Il y a beaucoup de supporters au pays, donc quand on a vu le tirage, donc les gens ils m'appelaient de partout pour me dire ouais, j'avais une sacrée équipe, c'est Marseille. Moi aussi j'étais content de croiser Marseille parce que quoi qu'on puisse dire, c'est une grande équipe qu'on respecte beaucoup. En plus il y a de très bons joueurs, donc j'étais content de rencontrer cette équipe de Marseille. C'est une première pour moi, une première expérience. Je suis fier, j'ai hâte de commencer la compétition pour aider mon club à gagner des matchs.
Une première pour Ousseynou Ba, et Eric, il n'est pas trop impressionné ?
On va le voir, justement, parce que
il a l'air déjà avant le match.
C'est grand début, mais il est content, évidemment. Il a une rôle d'histoire, Ousseynou Ba, avec l'Olympiakos Le Pirée, il avait porté le maillot déjà en 2018, le maillot grec, lui qui venait du Gazélec Ajaccio en Ligue 2 française. C'était moyennement bien passé, il s'était fait à nouveau prêter dans le même club en 2018-2019 et il était revenu. Et son entraîneur Pedro Martins, le Portugais, lui avait dit bah écoute, tu es le cinquième dans la hiérarchie de mes défenseurs, donc à toi de te battre. Et il s'est battu, il a bénéficié aussi de quelques coups de pouce avec la blessure, les blessures de certains titulaires, et il a fait sa place. Et aujourd'hui bah c'est lui qui est en défense centrale, il s'impose, lui qui a 24 ans, grand sénégalais de Dakar, 1m92, qui vient d'ailleurs d'honorer sa première sélection avec les Lions de la Teranga. Eh bien, c'était le 9 octobre dernier, un match amical contre le Maroc, et beaucoup d'observateurs le voient déjà eh bien être un titulaire en puissance en sélection avec une doublette Ousseynou Ba et Kalidou Koulibaly. Mmh.
Une absence notable pour terminer dans cet effectif, c'est le milieu de terrain guinéen Madi Camara.
Bah apparemment la patrouille du Covid l'a attrapé au vol. Mmh. et il a été testé positif, donc on espère pour lui qu'il n'a pas grand chose et qu'il pourra retrouver les terrains très très bientôt. Mais en tout cas c'est lui aussi, c'est le Guinéen, une bonne pièce de cet effectif hein, au milieu de terrain, et bah il va manquer à cette équipe de l'Olympiakos le Pirée, une équipe où il y a pas mal de Français, donc Mathieu Valbuena, aussi Yann Nemvila, hein, transfuge de l'AS Saint-Étienne tout récemment. On parlait de Youssef El Arabi, le Marocain. C'est une équipe, l'Olympiakos, qui vient pêcher allègrement dans le championnat de France de Ligue 1, de Ligue 2, grâce à Christian Carambeu, qui est le conseiller spécial du président du club, grâce à Pierre Issa, qui a été un temps directeur sportif du club, l'ancien défenseur sud-africain qui est aujourd'hui agent, et donc il renforce l'équipe année après année de l'Olympiakos avec ses joueurs français ou francophones, en tout cas qui sont passés par le championnat de France. Il y a eu Alexis Romao, il y a eu Gaëtan Bong, Delvin Dinga, Eric Abidal, Mathieu Dosevi et j'en passe. En tout cas, on va pas découvrir beaucoup de joueurs ce soir. Il y a pas mal de joueurs qu'on va connaître du côté de l'Olympiakos.
Oui, une équipe hein, qui alterne. C'est un peu le mano à mano comme en Espagne avec le Panathinaikos.
Oui, PAOK. Le PAOK,
hein, de Grèce. Et pour ce qui est de l'Olympiakos, c'est déjà 45 titres de champion de Grèce.
Pas mal.
Hein, n'est-ce pas? Paracalo, Eric Mamrut.
Annie aussi par toutes les langues.
Oui. Ercalisto.
Je crois que c'est Eric. Hein. On rajoute des S.
Voilà, Eric.
Eric Mamrut.
J'ai rajouté Mamrut.
Mamrutis.
Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous. On vous retrouve tout à l'heure
hein,
dans la soirée spéciale de RFI et puis dans la deuxième édition de Radio Foot International. Merci beaucoup. L'OM, parlons-en un petit peu encore. L'OM qui a des ambitions pour son entraîneur, André Villas-Boas, qui ne se cache pas. Alors, ils disent pas faire mieux que Paris, hein, n'est-ce pas, Dominique? Mais en tout cas...
C'est pas blessant, Daniel.
Ils veulent...
C'est agréable jusque-là.
Eux aussi, ils veulent rêver grand.
C'est un rêve qu'on a eu la saison dernière qui est finalement réussi. Maintenant, on est ici pour profiter. On veut jouer notre chance parce qu'on est dans un groupe que je pense que nous permet à compétre. Et le groupe, je le sens motivé, pas trop disturbé. On veut bien faire. On sait que l'adversaire qui est devant nous est une équipe très forte, très bien organisée, très bien entraînée, et nous va mettre en difficulté. Mais bon, il faut commencer à gagner d'expérience avec des équipes comme ça. C'est un beau match pour jouer. Alors, j'espère qu'on peut déjà faire aussi un gros match.
Espérer faire un gros match. Alors, rêver d'une qualification en huitième, on est dans un groupe avec Manchester City et le FC Porto, mais est-ce qu'on peut rêver grand, donc, David Lortolari?
À condition que...
Dominique peut pas répondre.
À condition que quelques joueurs, là, qu'on peut identifier aisément, fassent les gros matchs que promet André Villas-Boas. Thauvin, peut-il être à son potentiel?
Dimitri Payet. Ça fait 7 ans qu'il attend, lui aussi.
Bah oui, c'est ça. Dimitri Payet, peut-il aussi rayonner, comme il le fait parfois? Messieurs Sanson et Cuisance, les jeunes du milieu de terrain. Mm-hmm. Ça, c'est bon aussi comme potentiel. Ça peut faire des beaux matchs. Il peut y avoir du culot dans ces, des joueurs de ballon, là. Donc, si on réunit tous ces ingrédients-là, oui, on peut espérer des choses de la part de l'OM, mais la question, peuvent-ils le faire? Peuvent-ils délivrer, comme on dit maintenant?
Salim, il y a des cadres quand même dans cette équipe. Alors, on pense à Steve Mandanda, évidemment, qui est dans une très bonne phase, et heureusement pour l'équipe. Florian Thauvin, plutôt dans une bonne dynamique. On l'a vu face à Bordeaux. Alors, Dimitri Payet,
Je vois votre grimace, Olivier Coll, qui a du réunionnais. Et c'est vrai que, à la base,
Dimitri Payet... ça peut être un super joueur, mais peut aujourd'hui un peu disparaître, comme des fois d'autres joueurs dans d'autres matchs.
On sait tous que lorsque Payet est en pleine forme, c'est un joueur qui est hors norme, hein, qui est capable, à lui tout seul, de permettre à une équipe
l'aventure
de gagner.
L'aventure de 2018, notamment
avec la finale de l'Europa League. Mais, depuis le début de saison, et on le voit, il est quand même un ton en dessous. Alors, mis à part une rencontre, et encore, face au Paris Saint-Germain lors de la victoire au Parc, il n'était pas transcendant non plus, loin de là. Mais sinon, effectivement, on le taquine avec son poids, notamment, et Dimitri Payet, oui, a ce léger embonpoint aujourd'hui qui le gêne, sans doute, et il n'arrive pas à gommer cela. Conséquence, il est moins bon qu'un Thauvin, et c'est Thauvin aujourd'hui qui porte au final l'équipe offensivement parlant. On parlait hors antenne ou même à l'antenne du cas Benedetto, par exemple. Aujourd'hui, vous avez des joueurs offensivement qui ne sont pas là ou peu là. Benedetto, Payet, heureusement que Thauvin est là. Après, est-ce que ce sera suffisant à l'OM? Je rappelle aussi la séquence du calendrier. 3 semaines de suite, vous avez les 3 journées de championnat et les 3 journées de Ligue des Champions. Donc, l'enchaînement des matchs avec une équipe de Marseille qui tourne très peu. Oui, mais sauf que Marseille tourne très peu parce que vous avez un effectif sur le banc qui vous permet pas de tourner. Donc, Thauvin, il doit être bon aujourd'hui, il doit être bon dimanche en championnat, il doit être bon de nouveau mercredi, etc., etc. Est-ce qu'il peut l'être à lui tout seul? Il va falloir que Payet l'aide.
Dominique?
Non, mais il a tout dit, hein. C'est aussi un comportement d'équipe. Donc, là, on a parlé des individualités.
Normalement, il y a un coach aussi qui
connaît bien cette compétition quand même sur le banc,
avec d'autres équipes, qui a l'air d'y avoir une grande entente et adhésion en tout cas entre ce coach et ses joueurs.
On se souvient que c'est un peu eux qui l'ont rattrapé par la manche alors qu'ils voulaient partir, et que c'est eux qui l'ont.
Mais c'est lui qui les a conduits l'année dernière vers cette Ligue des Champions.
Après, lui, dans ses doutes pour partir, il y avait: est-ce que j'aurai une grande équipe? Je pense qu'aujourd'hui, il est resté, mais il n'a pas exactement eu l'équipe qu'il voulait. Là, ce soir, on va voir Cuisance au plus haut niveau. Qui joue en Allemagne.
Il est champion d'Europe.
Oui, il avait peu de temps de jeu, mais il était intéressant malgré tout. Donc, sur un match complet,
on va voir.
Bonne
école.
Il faut éviter l'échec Cuisance, quoi. Et je vous le donne. vous en faites ce que vous voulez. Mais non, c'est la bataille, a priori, va se jouer entre Porto et l'Olympiakos. Voilà, il va y avoir un dindon de la farce entre ces trois-là qui finira quatrième et l'autre qui va finir troisième, qui est un moindre mal parce que t'es reversé en Ligue Europa. Mais je pense que Marseille peut être devant Porto et l'Olympiakos. Et ça se jouera lors des confrontations directes.
On verra ça
ce soir.
Vous pourrez suivre ce match, notamment grâce à donc Eric Mamrut, et il y aura Thomas de Saint-Léger, Martin Guèze et Patrick Juillard dans le studio de RFI. Nous, on continue à passer un peu à la loupe ces autres rencontres. On va le faire un peu en mode quiz, hein. Chacun peut répondre. Alors, l'affiche du soir, pour nous, si on n'avait pas parlé de Marseille, c'est quand même ce Bayern Munich-Atlético Madrid.
Pas mal.
Soit 1.
Pas mal.
Hein, c'est de bon vol, on va dire.
Pas mal. Il y a un champion d'Europe, je crois, là-dedans, en titre.
Hein, n'est-ce pas? Champion d'Europe sortant même. Ils étreignent leur titre, en plus, 58 jours après l'avoir remporté à peine. Donc, eux, ils n'auront pas gardé longtemps. On pensait à l'Algérie qui aura gagné un an de plus, ou le Portugal, un an de plus. Leur titre et tout. Eux, eh ben, c'est 58 jours. Bon. Mais ils l'auront, et ils l'ont bien arrosé, leur belle coupe aux grandes oreilles. Alors, un ogre toujours affamé, c'est ce que peut-être vous allez nous confirmer, David Lortolari, même si son jeune Gnabry, lui aussi, comme dirait Mamrut, a été pris par la patrouille. Mamrutis. Est-il en danger face à ce rugueux adversaire qui est l'Atlético Madrid, renforcé par Luis Suarez, mais surtout cette équipe qui avait éliminé, on s'en souvient, l'année dernière, alors c'était en phase éliminatoire, mais Liverpool, c'est-à-dire là, un champion sortant.
Je crois qu'il va y avoir, il peut y avoir, il devrait y avoir ce soir 9 sur les 11 joueurs du Bayern, joueurs qui ont disputé la finale de la Ligue des Champions. Donc il y a une forme de continuité assez nette, et on peut imaginer que ceux-là, s'ils ne sont pas repus, seront à la hauteur. Il y a un petit grain dans la machine quand même, un petit grain de sable, c'est ce contrôle positif de Serge Gnabry, qui est un des éléments décisifs sur l'animation offensive. Oui, effectivement. Il peut aussi être mauvais certains matchs, mais bon, il est très dangereux en tout cas, et il ne sera pas là. Et le problème, c'est que indépendamment de ce qu'on pourrait éventuellement apprendre dans les prochains jours, parce que pour l'instant tous les autres joueurs sont négatifs à l'heure où nous parlons, mais peut-être
il y a eu des craintes sur ce match.
Oui, parce que en plus
les cas contact.
Je peux vous confirmer en tant que diffuseur de la rencontre en France à RMC Sport, on avait des informations nous plus tôt en disant attention, peut-être que le match va être reporté voire annulé parce qu'il faut 13 joueurs.
Voilà, et on rappelle que l'UEFA demande à ce qu'il y ait 13 joueurs sur la feuille de match,
dont un gardien.
Donc faut quand même, il y a vraiment une épidémie parce que l'effectif du Bayern ils sont quand même à 25-26.
Mais peut-être, étant donné que Gnabry, dans les tout derniers entraînements, il y avait des 1 contre 1, notamment avec Alaba, il était proche aussi de l'entraîneur et c'est tout à fait normal dans une séance d'entraînement, peut-être qu'on apprendra dans les prochains jours qu'il y a d'autres cas. Pour l'instant, il n'en est rien. Si ça ne trotte pas dans la tête des uns et des autres, et je trouve ça peu probable à partir du moment où on est engagé dans une confrontation de Ligue des Champions comme celle-là, normalement, le Bayern est assis sur des certitudes.
Ça devrait éviter Luis Suarez de mordre son adversaire. Mais s'il a des doutes sur le, est-ce qu'ils ont le Covid ou pas, peut-être que il va se retenir.
En revanche, on plaisante sur l'Uruguayen, mais je vous avoue, moi, je l'observe déjà de l'autre côté. Luis Suarez, j'ai envie de le voir, non plus donc avec le maillot du Barça, mais donc avec un autre maillot. Il a plutôt très bien démarré en championnat.
Ah oui, et il c'est a encore marqué ce week-end.
Voilà, et de le voir porter une autre attaque, donc celle de l'Atlético face à des grands noms, le Bayern.
Vous devez vous souvenir de Liverpool en plus.
Et j'ai envie de le voir, Luis Suarez, et pourquoi pas porter cette équipe qui offensivement avait eu quand même la saison dernière du mal. Alors même s'il y avait la qualif face à Liverpool,
il manquait un buteur clairement l'année dernière.
Totalement.
À l'Atlético.
Même si Morata avait fait le travail notamment face à Liverpool, mais il y avait quand même beaucoup de difficultés. C'est vrai que Luis Suarez peut être enfin cet élément qui peut permettre à l'Atlético, au-delà d'être rugueux, de marquer des buts.
Il y a quand même, juste un instant sur ça, il y a un problème pour Suarez pour être visible ce soir, parce qu'il va avoir sur le dos le colosse Zuleux, 1m94-95 kg, donc je ne sais pas si on va voir beaucoup Luis Suarez. C'est un des duels intéressants du match.
C'est un joueur qui sait particulièrement bien jouer son corps, Suarez. Donc,
c'est pour ça que ça va être
sortir
peut-être un vrai combat. Ça promet, ce duel.
Ouais. Parce qu'il en a rencontré des défenseurs de taille, on va dire.
J'ai l'impression qu'il a le meilleur jeu de fesses au monde, Luis Suarez. Non, c'est vrai qu'il a une façon...
Lukaku est bien aussi. Non,
je trouve qu'il a une façon de positionner lors des duels et lors des contacts ses fesses qui fait qu'il prend le dessus sur ses adversaires
et qui fait qu'il obtient toujours la faute.
Mais
quasiment toujours.
Mais je trouve ça fantastique. Non, c'est vrai, c'est sérieux.
Mais je vous crois.
C'est un vrai danger. J'encourage les attaquants à jouer avec
à utiliser leurs fesses. Exactement.
Passons à une autre affiche. Celle-ci, c'est Ajax Amsterdam Liverpool. Alors, c'est une rencontre qui aurait pu, dans un autre contexte, se disputer en juin 2019, dans le monde d'avant, si les rêves des amoureux de football avaient été réalisés, n'est-ce pas ? Car cette équipe de l'Ajax comptait alors Ziyech, De Jong, De Ligt. Elle était enchanteresse, peut-on dire. Elle avait été éliminée à l'époque par Tottenham.
Par Lucas Moura.
Voilà. Le Brésilien, privé de finale, on va dire, alors qu'on voyait cette jeune équipe pleine d'allant aller si loin. Et ça a laissé, vous allez l'entendre, eh bien encore des regrets. Et c'est le Serbe Dusan Tadic qui est toujours à l'Ajax.
En 2019, nous avions failli affronter Liverpool en finale de la Ligue des Champions. Et maintenant, le scénario est totalement différent. Ça va quand même être un super match à jouer. Mais je dirais qu'à l'époque, si on était allé en finale, on aurait eu plus de chances que Tottenham. On était vraiment dans une super forme à ce moment-là. Et les finales, vous savez, c'est toujours du 50-50.
Ça vous fait sourire, Salim.
C'est parler comme ça. Alors bon, on lui pose la question en même temps. C'est
bien logique. Bien sûr. Parce que c'est l'affiche qu'on avait peut-être imaginée.
Bien sûr,
Roller,
et qu'on rêvait, disons-le clairement. Mais c'est vrai qu'on entend même dans sa voix, dans ses propos, encore des regrets comme quoi ça va pas partir de suite. Il faut rappeler qu'il attend la fin de sa carrière pour qu'il puisse l'oublier.
Tu te rends compte qu'il a été à 10 minutes près de jouer une finale de Ligue des Champions.
À quelques secondes, Lucas Moura qui marque le 3e à la 95e.
Voilà, donc à quelques secondes. Le triplé de Lucas qui était quand même imprévisible, comme quoi le foot. Et donc il sait qu'il a très peu de chance, même si le foot c'est fou, donc ça peut revenir, mais il a assez peu de chance. Puis en plus, comme l'a dit Annie, depuis il a été démantelé cette équipe. Van de Beek a signé cet été à Manchester, De Jong est parti il y a déjà un an à Barcelone. Voilà, donc c'est plus Ziyech, c'est plus la même équipe. Et donc Je comprends qu'il ait du mal. En plus, là où il est plus lucide du tout, c'est qu'il dit qu'il avait 50% de chance de la gagner. Je pense quand même
alors
que.
Alors qu'ils ne sont pas arrivés.
Je pense quand même que Liverpool, c'était son année l'année dernière.
Alors peut-être on peut reporter ces 50% ce soir. L'équipe de Ten Hag a perdu tous les camarades de Tadic, on le disait. Et l'entraîneur, alors en plus il y a le buteur hein, Anthony qui ne peut pas jouer non plus. Et l'entraîneur Ten Hag dit on va jouer contre la meilleure équipe du monde, c'est-à-dire les champions d'Angleterre, c'est-à-dire Liverpool. Et les Reds, ils sont attendus au tournant parce que l'année dernière, justement, en tant que champions en titre, ils étaient sortis un peu tôt de la compétition.
Oui, et ça reste un regret quand même à Liverpool. Surtout la manière dont ça s'est passé, il y a eu la défaite à l'aller 1-0 à Madrid.
Et puis confinement.
Au retour, surtout le contexte du match, c'était juste avant le confinement.
Ah oui, c'est vrai.
Juste avant.
Mais
et surtout le match. Non, du tout. C'était un stade plein ce jour-là. Et d'ailleurs, ça avait entraîné par la suite l'apparition du Covid à Liverpool, puisque de nombreux supporters.
Parce que c'était juste avant ces journées de confinement.
Et ce match-là avait été tellement dominé par Liverpool. 1-0, prolongation, balle, et même but de 2-0 de Firmino juste après le début de la prolongue. Et des erreurs incroyables d'Adrian qui remplace Alisson à l'époque blessé. Et au final, l'Atlético s'était imposé 3-2. Donc ça avait laissé beaucoup de regrets à Liverpool qui tout de même avait réussi à bien finir la saison avec le titre de champion.
Oui, ce qui était un peu leur objectif l'an dernier.
Évidemment, ça efface pas tout ça. Le titre 30 ans après, ça laisse encore des regrets l'élimination de Ligue des Champions.
Oui, surtout de cette manière-là. En fait.
Oui, mais quand même, ils ont eu l'objectif majeur.
Évidemment, leur objectif clé, c'était le titre. Sauf que ce titre-là était dessiné bien avant. Rappelez-vous, Liverpool avait tellement d'avance qu'on savait. On savait peu ou prou.
Oui, mais déjà, ils n'avaient pas fait une bonne phase de poule, justement.
La phase de poule n'était pas bonne, mais ils avaient réussi quand même à finir. Mais encore une fois, le titre de champion avait été obtenu tellement tôt en Angleterre, finalement, ils avaient un écart tel qu'ils voulaient réaliser le doublé, ce qui aurait été incroyable.
Les gens sont un peu fous quand même. Ils font finaliste une année.
Dominique, quand on vous propose du caviar, vous en voulez encore?
Oui, non, mais ils font finaliste une année. Bon, ils tombent sur le Real Madrid. Sergio Ramos blesse
Mohamed Salah
très vite. Comme ça, il règle le problème majeur. on la connaît, hein, l'histoire du Real Madrid. Et puis l'année suivante, ils gagnent contre Tottenham.
Bien sûr.
Et on leur demande de tout gagner. Ben non,
Dominique, quand vous êtes au plus haut, on vous demande malheureusement d'être toujours au plus haut.
Mais
ils
ont ajouté un titre. Ils ont ajouté le titre qu'ils étaient en train depuis 30 ans. Moi, je trouve ça génial, en fait.
Bon, donc pour ce soir, l'Ajax, parlez-moi de cette Ajax nouvelle formule.
Il a failli être David Lortolari, l'entraîneur de Bayern.
Il a laissé un souvenir impérissable et le regret de son départ derrière la réserve au Bayern et il est en réserve.
Il a remplacé Kovac, son nom circulait.
Ça circulait, ça circulera probablement un jour ou l'autre quand il y aura une crise. Vous disiez démanteler, oui, parce qu'il a une grande cote auprès des supporters du Bayern. Vous disiez démanteler en ce qui concerne l'Ajax, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a quand même encore de bons éléments dans cette équipe. Vous parliez de Tadic et on l'a entendu. Les Tagliafico, les promesses, Klaassen qui revient d'une saison peu aboutie avec le Werder Bremen en Allemagne, mais qui retrouve sa maison entre guillemets. Moi, je suis content qu'on évoque ce match ce soir dans notre émission parce que ça peut être un peu pétillant pour Liverpool. C'est pas un match gagné.
Oui, surtout je vous rappelle qu'il y a juste Virgil van Dijk qui n'est pas là. Virgil van Dijk qui s'est gravement blessé et Van Dijk là est pas là. C'est pas du tout la même défense à Liverpool.
Et Alisson aussi.
Absent pour encore 4 semaines a priori. Donc là où vous aviez Van Dijk et Alisson, vous allez avoir Adrian et devant lui Gomez et Matip. C'est pas tout à fait la même chose et ça peut permettre à des Kounsi Promes ou d'autres de réussir à marquer leur but.
Ils ont eu une belle adversité quand même déjà en championnat Liverpool.
Face à Everton, 2-2.
Ils ont eu quand même des matchs déjà de très haut niveau pour un début de saison.
Bien sûr, mais Van Dijk était là, il s'est blessé ce week-end.
C'est vrai.
Voilà, donc maintenant on va voir face à un gros, typiquement, ce que ça peut donner sans l'Irlandais qui va être absent très longtemps, a priori les croisés touchés.
Donc vous dites au moins 6 mois quoi.
Au minimum, si c'est les croisés, c'est effectivement, on le reverra à l'Euro.
En gros, c'est la saison quoi, oui. Dominique, vous avez fait allusion au Real Madrid. Eh bien, allons-y. Ce Real Madrid jouera à domicile. Ils reçoivent des Ukrainiens, les pauvres aussi, très touchés par le Covid. Le Shakhtar Donetsk, eux, le club itinérant qui sont passés de Donetsk, ensuite à Lviv, Kharkov, si je ne me trompe pas. Et là, maintenant, ils sont en résidence à Kiev. Mais résultat à Kiev, on sait que le Dynamo était très touché. Eux aussi. Il y a 10 joueurs sur 25 qui ont été testés positifs dans l'effectif. Il y en en a aussi beaucoup de, dans le staff qui ont été touchés. Bref, ce match d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire, parce qu'on connaît, vous les citiez les règles de l'UEFA, mais est-ce qu'on peut dire que ça a un sens comme ça quand on part 110 des 25 joueurs?
On l'a vu un peu avec le France-Ukraine, parce qu'on a un peu la même problématique, ils sont venus en prendre 7
au
stade.
Sauf que c'était un
France.
Match amical.
Oui, mais encore plus, pourquoi jouer des matchs amicaux qui servent à rien, qui n'ont pas d'enjeu, si ce n'est pour les télévisions, pour que les fédérations touchent leur argent, en fait. Même si on a passé un bon moment, il y a eu 7-1, c'était sympa, mais bon, je suis pas sûr qu'on puisse mettre la santé des ou le football un peu comme ça, bafouer le football au nom du plaisir. Et là, vous avez tout à fait raison, Annick. Moi, quand j'ai vu la règle de l'UEFA tomber pendant le Final 8 à Lisbonne, je crois, 13 joueurs sur la feuille de match dans un gardien, bon, je l'ai dit, ok, j'ai compris. Donc, il faut business, il faut que ça continue. Show must go on. Et puis voilà, la santé des joueurs, ça ne les intéresse pas. Mais voilà, et FIFA, UEFA, même bateau. Le football, c'est une industrie, c'est un business. Savoir si des joueurs, comme à Montpellier, peuvent finir en réanimation, parce que on dit les jeunes, tout ça, mais ça peut, il peut se passer un truc grave. On connaît pas très très bien ce virus, on le connaît de mieux en mieux, mais voilà. Donc, j'espère pour eux non, c'est assez débectant en fait ce genre de campagne là. Le calendrier est très serré parce que donc on a redémarré plus tard.
Maintenant jusqu'au 9 décembre on aura la Ligue des
Champions. Donc c'est pour ça que Salim a dit par exemple Marseille va enchaîner championnat et journée de champion et Champions
League.
Équipes, mais
enchaînent beaucoup là.
Tout le monde est comme ça et puis les sélections rajoutent les matchs qu'ils ont ratés
donc,
au mois de mars.
Donc en plus du Covid, il risque d'avoir les blessures et plein de choses.
Ça va être une saison très particulière qui est très incertaine. Le football est très incertain et les résultats sont rendus encore plus incertains par cette pandémie, voilà, parce que franchement, on ne sait pas comment les équipes ont été préparées.
Est-ce que c'est une chance alors pour le Real de se récupérer un peu après leur défaite à domicile et un Real qui va se présenter sans Sergio Ramos, sans toujours Hazard, mais alors Hazard, c'est vraiment pas le fruit du hasard, mais le fruit de blessures et qui doivent durer. Est-ce que le Real a du coup une chance?
L'Ukraine avait pris 7 au Stade de France. Après, ils ont gagné contre l'Espagne, donc. Il y a quand même de très bons joueurs. Quoi.
Et en plus, il y a toujours une colonie brésilienne dans cette équipe.
C'est à peu près la moitié de l'effectif.
Oui, il y a beaucoup d'absents. Tyson, Moraes.
Il y a quand même la moitié
Alan
des
Patrick,
cadres qui sont pas là quand même.
Plus,
ils sont malades.
Vous évoquiez les blessures à Nick Onoplianka qui peut être aussi utile sur son côté. Il est blessé. Pour le Real, c'est quand même un adversaire à portée, on va dire.
Voilà. Même si là, aujourd'hui, Zinedine Zidane a décidé d'aligner non pas Benzema, mais Jovic, qui sera titulaire, Karim Benzema est préservé, parce qu'il y a aussi le Real Barça qui arrive ce week-end. Donc il y a peut-être ça dans un coin de
la semaine pour Zidane et pour le Real c'est le Barça.
Voilà, donc quand même en étant objectif, même si Ramos n'est pas là, même si Benzema est préservé.
Comment ça c'est une chance pour le Shakhtar que le match important de la semaine.
C'est une chance oui, mais encore une fois vu l'effectif amoindri à Donetsk, si le Real va pas gagner ce genre de match,
si le Real a pris Moubé n'y arrive
s'il
pas.
Vous plaît. Ouais.
On verra ça donc sur l'antenne de RFI notamment sur les écrans pour ce qui est de Salim, mais pour nous et bien ça sera dans vos postes radio. Il y aura aussi ce Inter Mönchengladbach encore à citer ou peut-être Manchester City Porto dans le même groupe que Marseille. Toutes les rencontres donc à partir de 20h57, 18h57 en temps universel.
Elle est belle cette musique. Elle est belle cette musique.
On a cherché hier d'ailleurs, parce qu'on se demandait, c'est un anglais qui s'appelle Tony Britton, qui l'avait réorchestré, on va dire, mais ça vient bien du classique et de Handel.
Je crois que c'était Laurent Salerno, moi, qui était au violon. C'est pas lui, là?
Non, mais notre maestro, lui, là.
Non, c'est le chef d'orchestre.
Ah, d'accord.
Avec donc Thomas de Saint-Léger, Eric Mamrut pour l'OM et un deuxième Radio Foot dans la foulée. Dominique, on parle de la soirée d'hier?
Ah!
Je me souviens pas.
Le but fantastique de Manchester United, Marcus Rashford.
Oh Rashford, Marcus Rashford, ils refont le coup de huitième de finale il y a un an et demi.
C'est lui qui avait marqué le pénalty il y a un an et demi, qui avait crucifié les Parisiens à la 94e.
Les Red Devils viennent faire très mal aux Parisiens.
Ici, à 4 minutes de la fin du temps réglementaire, 2-1 pour Manchester United et ça n'est pas un hold-off.
ça n'est pas un hold-up, nous dit Frédéric Suto, qui est commenté hier pour RFI. Pourtant, on a tous cru ou on a tous voulu croire que les finalistes de Lisbonne, même malheureux finalistes, hein, en finale face au Bayern, eh bien, rentraient comme vice-champion d'Europe. C'est déjà pas mal. Avaient progressé, passé un certain cap, au moins psychologique, n'est-ce pas? Que nenni, Dominique. Hier soir, on a vu les stars du PSG qui nous ont rejoué le même match qu'à Lisbonne en deuxième mi-temps, qu'à Dortmund le match aller, qu'à Paris aussi face au même Manchester United. Alors on s'interroge depuis hier soir et il semble que Thomas Tuchel aussi.
Et voilà, c'était une performance, comme vous avez dit, sans intensité, sans agressivité, sans récupération du ballon, sans contre-pressing, sans intensité avec le ballon. Un peu bizarre, honnêtement, un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi.
Un peu bizarre, donc Dominique.
Vous avez dit bizarre.
Est-ce que vous savez pourquoi?
Alors, l'explication la plus sérieuse que j'ai, c'est qu'en France, il y a un couvre-feu à 21h, que le match a commencé à 21h et que les Parisiens le respectaient à la lettre. Donc, ils ont décidé de rentrer chez eux, que je les ai pas vus.
C'était leur cousin.
Je ne sais pas qui était là, mais voilà. C'était pas l'équipe du Paris Saint-Germain que je connais.
Pas la quoi?
Donc,
l'équipe, vous dites?
Oui, l'équipe.
Pas vu d'équipe, moi non plus. Non.
Bah voilà, c'est pour ça, ce n'est pas, mais franchement.
Vous qui suivez le Paris Saint-Germain depuis si longtemps, on les suit sur la Ligue des Champions depuis que le Qatar est là, tous les ans, avec de grosses attente. Là, le premier match, on a demandé hier à Eric Rabessandratana s'il était un peu inquiet. Il dit non, mais pour le premier match, là, et tout. Pas du tout.
Vous auriez posé la question à n'importe qui.
Oui, j'aurais dit la même chose.
J'aurais dit la même chose.
À part une entrée en matière compliquée à Liverpool il y a deux ans, en général, ils réussissent plutôt bien leur entrée en la matière. Je crois que ça faisait 16 ans qu'ils n'avaient pas perdu en
Exactement.
En Ligue des Champions, donc en Coupe d'Europe. Donc, il n'y a pas d'explication majeure avec un match en retard.
Ça les motive plus, ça les fait pas rêver, la Ligue des Champions. On a l'impression qu'ils jouent
j'imagine
que pour
contre Nîmes, il y a Nîmes la semaine dernière et Dijon ce week-end. J'imagine qu'entre les deux, c'était le match de Manchester qui les intéressait de jouer. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que l'absence de Marco Verratti au milieu, parce que j'ai vu un milieu affreux aux premières périodes, trois joueurs qui se connaissent pas, qui n'ont jamais joué ensemble et qui crée du jeu. Est-ce que l'absence de Bernat, même si Kurzawa a pas fait un mauvais match, je trouve que le plus gros problème, si on parle de jeu, c'est l'association entre Di Maria, Neymar et Mbappé.
C'est incroyable. Les trois meilleurs de l'équipe.
Je trouve ça dingue qu'on est trois ans après l'association de Neymar et d'Mbappé. Ils ont été réunis ensemble à l'été 2017. On est plus de trois ans après, presque trois ans et demi. Et j'ai l'impression qu'on sait toujours pas comment il faut qu'ils jouent tous les deux ou tous les trois ensemble. Moi, c'est inquiétant parce que s'il y a bien une force au Paris Saint-Germain, il me semble que l'Europe leur envie, c'est qu'ils aient Neymar et Mbappé. Parce que au moins Mbappé, toute l'Europe le veut. Je pense que Neymar, il y a d'autres problèmes, mais je pense que des clubs seraient contents de l'accueillir. Et pourtant, les deux, ça ne marche pas. Donc, c'est pas eux qui font basculer ce genre de match. Ils n'ont pas marqué.
Ils n'avaient pas envie. Ils étaient fatigués, ils n'étaient pas motivés. Ils se disaient, c'est le premier match.
Mais je pense qu'il y avait beaucoup de problèmes techniques. Je pense que dans leur dos, il y avait très peu de ballons qui arrivaient.
Une équipe coupée en deux.
Donc, il n'y avait pas de création. Donc, au bout d'un moment, soit Neymar dribble toute l'équipe. Il y va individuellement. C'est-à-dire qu'on en vient aussi à, ça fait deux ans qu'on a Thomas Tuchel et on se dit qu'il n'y a toujours pas de progression dans le jeu, que ça marche sur des exploits individuels. Un jour c'est Di Maria, un jour c'est Neymar, un jour ça peut être Icardi quand il a une bonne période.
C'est vrai qu'on répète, c'est un peu souvent.
Et là, il n'y a toujours pas de jeu, quoi. Il n'y en avait pas énormément sous Unai Emery. Il y en avait sous Laurent Blanc. Ça s'est arrêté au quart de finale. Pourtant, c'est les meilleures années en termes de jeu.
Oui.
Mais ça s'est arrêté toujours au quart de finale. Il y a un problème psychologique.
Salim,
c'est compliqué.
Est-ce que vous...
Mais bon, rien n'est perdu. Hein. C'est une entrée en matière ratée.
Non, mais c'est déjà compliqué. Parce que perdre le premier match.
Ils ont oublié dans la poule, il y avait aussi Leipzig. Il y a Beşiktaş, un club turc
Istanbul.
Qui est pas très fort. Mais entre Manchester, Leipzig et Paris, il y en a un qui va rester sur le carreau.
Salim, bon alors évidemment vous avez beaucoup regardé Manchester, mais est-ce que vous comprenez l'apathie, on va dire, de ce Paris Saint-Germain?
Mais non, mais enfin surtout il y a des chiffres assez intéressants de cette partie lorsque l'on voit que Mbappé a couru 2 km de moins que Marcus Rashford, quand on voit qu'il y a une vingtaine de courses à haute intensité de moins de Mbappé par rapport à Rashford. Je rappelle, les courses à haute intensité, c'est des sprints à plus de 25 km/h. Donc Rashford a beaucoup plus cavalé que Mbappé. J'ai presque envie de dire,
il a marqué,
alors je me permets d'individualiser, même si au final c'est collectif, et Dominique l'a très bien dit, mais Par exemple, le cas Mbappé est intéressant. Ça fait un moment qu'il a plus marqué, par exemple, en Ligue des Champions, quand même. On l'attend aussi dans ces rencontres-là. Et au final, il ne le fait pas. On l'attend qu'il prenne un peu ses responsabilités. Neymar le fait de temps en temps. Bon, hier, ça n'a pas été le cas, mais à Lisbonne, il était là, il était en mode leader. Mbappé, bon sang, encore hier, il a tenté des pseudo-choses, mais il n'a pas réussi. Mbappé, 13 ans de ça. Et à un moment, je m'inquiète. Mbappé, alors, on connaît tout son talent incroyable, extraordinaire. Mais en Ligue des Champions,
son entraîneur l'a pas aidé il avait participé aux 3 matchs de l'équipe de France et il l'a fait jouer
c'est
deux
vrai.
Jours après
vous avez
Nîmes.
Raison, vous avez raison.
Et je trouve que ouais, c'était raison. Pour moi un danger. Et je l'ai dit dès le match de Nîmes. J'ai dit, on va en payer les conséquences. Bah, pas bon, mais il va en payer les conséquences. Et il me semble que, hier soir, une des problèmes, c'est qu'il ait beaucoup joué ces derniers temps, quoi.
David Lancolari.
À l'issue, Annie, d'un match qui avait lieu en parallèle entre la Lazio Rome et Dortmund, Lucien Favre, j'ai bien écouté sa conférence de presse et il a reproché durement à ses jeunes attaquants, ses jeunes joueurs offensifs, de ne pas faire les replis défensifs, de ne pas courir à haute intensité précisément pour revenir aider la défense, etc. Est-ce qu'on pourrait pas faire un parallèle entre ce reproche et ce qu'on a vu des joueurs du Paris Saint-Germain hier? Ça voudrait dire dans ce cas-là que des Neymar, des Mbappé, des Di Maria et quelques autres sont pas matures.
Sont pas,
c'est quand même compliqué de dire ça.
C'est compliqué, surtout Neymar qui quand même a un âge entre guillemets avancé. Je parle en termes de foot. Di Maria aussi, Mbappé certes est plus
parce
jeune.
Que Salim, dans une équipe, s'il y a une star, un Messi, un Cristiano Ronaldo qui ne fait pas les efforts, on comprend, on accepte et on garde l'équilibre à peu près avec les 10 autres. Mais là, s'il y en a 3 ou 4 qui font pas d'efforts, ça devient compliqué.
Mais en revanche, ce qui est assez sidérant, c'est Dominique le disait, vous avez ces deux joueurs Neymar, Mbappé et donc Di Maria. On a l'impression que depuis 2 ans, on n'arrive pas à les faire jouer ensemble. J'entends par là des formules intéressantes. On évoquait la gestion du cas Mbappé aussi sur ces derniers jours où le joueur, il a joué quand même à Nîmes. Pas certain qu'il ait été utile de le faire jouer. Enfin, à un moment donné, le cas Thomas Tuchel, il va devenir aussi très gênant, lui, quoi.
Bah justement. Je suis pas sûr que sa finale le protège si longtemps que ça. Bah oui. Il a fait une finale le 23 août. Il y a 55, comment vous avez dit pour le Bayern? 58 jours, mais on a déjà oublié peut-être un peu. Il l'a pas gagné.
Pas trop, mais justement, c'est vrai que Thomas Tuchel se retrouve un peu au centre au moins des critiques, parce que après, pour le reste, s'il doit partir ou pas, c'est pas, on peut pas le savoir, mais on lui reproche souvent de ne pas avoir peut-être assez de poigne, on lui reproche ses composition d'équipe. On lui reproche aussi de ne pas avoir donné de style de jeu à son équipe. Est-ce que c'est une marque Tuchel, entre guillemets, David Lortolari, vous qui l'aviez beaucoup suivi quand il a fait sa carrière en Allemagne?
Oui, David a fait Thomas
Tuchel. Non, mais moi, je bute sur plusieurs paradoxes, là. On se souvient d'images fortes au début, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Oui. On enlace les joueurs, on prend par les épaules.
Très latine attitude.
Était-ce des images de communication à la destination des caméras? Peut-être, en partie.
La direction de ses joueurs aussi. Aussi, sans doute, c'était un message un peu de copain.
Mais le style n'a pas de Tuchel, elle est où?
Ce qui m'étonne beaucoup,
ça,
moi...
Ça a disparu en plus. Hein.
Ce qui m'étonne beaucoup, moi, c'est que c'est un tacticien fin, presque idéologue, presque buté, borné sur ses idées, sur son système, qui est en lien avec d'autres entraîneurs très, très cotés du moment, notamment Guardiola, pour pas faire de parallèles scabreux. Et à côté de ça, on a l'impression d'une capacité à manager défaillante et d'un pouvoir effrité vis-à-vis de ses joueurs ou vis-à-vis de son directeur sportif. Pour un homme qui veut assumer, qui veut avoir du pouvoir, qui est quand même, je pense, grassement payé, il y a quand même un paradoxe là. Il y a un moment où il va falloir que ça casse dans un sens ou dans l'autre. C'est déjà arrivé par le passé avec cet entraîneur, Dominique, dans des clubs où il était précédemment, comme par ailleurs pour Lucien Favre, où à un moment il dit « ça suffit, j'arrête, ça va plus, je suis dans une impasse ». Est-on loin de cela? Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, il y a un souci parce que il est très bon tactiquement, théoriquement. Il est un théoricien du football. Et là, il ne sait pas faire jouer ses joueurs ensemble. Est-ce que c'est un problème de management ou un problème tactique? Je pencherais plutôt pour la première hypothèse.
Mais la différence avec son mentor Guardiola, qui a eu évidemment le Barcelone, mais aussi le Bayern et Manchester City, c'est que c'est pour la première fois qu'il est confronté pour la première fois à investir de ce niveau-là, ces égos-là. Il n'a pas connu ça à Mayence, à Dortmund, il n'y a pas eu Ousmane Dembélé, c'est pas ça qui était difficile à gérer. Il débutait au haut niveau. Là, il a Neymar, il a Mbappé, il a Di Maria, il a Icardi, il avait Cavani, il avait Thiago Silva. Et je pense que ça, c'est peut-être, on voit avec Bielsa, qui s'est jamais confronté à ces types de vestiaires-là. Il a eu une carrière fantastique, mais il a jamais entraîné Real Madrid, Barcelone.
C'est des théoriciens dans l'absolu.
Voilà,
quoi.
C'est des théoriciens qui ne vont, et c'est un autre métier de gérer des stars, c'est un autre métier. C'est là où Flick, par exemple, pour moi, c'est aussi une réussite.
Zidane.
Zidane.
Voilà. Ça fait.
À juste titre, on critique Thomas Tuchel et le PSG, mais bravo tout de même à United, qui a fait un bon match. Bien certains leaders, Bruno Fernandes, malgré son pénalty raté, il l'a retransformé. Rashford également. Rashford, comme il y a deux ans, il avait marqué le dernier but à la dernière seconde. Là, pareil.
On a chanté leur louange hier soir dans la deuxième émission de Radio Foot. Et nous serons là encore ce soir avec David Finzel et Laurent Salerno. On vous donne rendez-vous à 21h10 en temps universel avec Marc Libra, Patrick Julliard.